On est arrivé ici, on a vécu comme ça. Et après, papy faisait pas mal de petits travaux à côté. Comme il avait des jours de repos, il allait faire des jardins à droite et à gauche. Comme ça, ça comme on dit, ça mettait un peu de beurre dans les épinards. Hein. On a toujours fait comme ça. Hein.
Les gens d'ici.
Une série de portraits sonores qui racontent le territoire.
Alors, il est retombé dans la charcuterie, le commerce. Là, au début, avant que Tantin Dédé, qu'il hérite de ses parents, alors ses parents, ils faisaient que les marchés. Et Dédé, il a continué à faire comme ses parents. Après, ils ont vendu la charcuterie et Dédé l'a gardé qu'à faire les marchés. Hein. Il fait que les marchés. Dédé fait que les marchés maintenant, voilà. Et voilà, et maintenant, il est à la retraite aussi. Mais c'est comme ça qu'on a vécu. Ah, notre vie, elle aurait été plus belle, hein.
Les gens d'ici.
Une série de portraits sonores qui racontent le territoire.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une femme est à l'honneur, c'est Charlotte. J'ai d'abord entendu la voix de Charlotte et ses pertinents propos dans l'émission actuelle sur ces mêmes ondes, où elle intervenait dans un sujet sur le post-partum. Charlotte est doula. Quoi ? Qu'est-ce ? Je n'avais jamais entendu ce mot. Je me suis sentie vraiment bête et ignorante. Doula. Alors je suis allée sur son Instagram et j'y ai vu Charlotte Luche-Bosca, c'est son nom, toute pimpante, passionnée. Elle y explique son métier, doula donc, ses activités, ses offres, le tout avec sourire et joie communicative. Doula. Si je vous dis grossesse, bébé, maman, parents, aide au quotidien, vous commencez à comprendre ? Moi, pour qui la maternité remonte à plusieurs décennies, Charlotte va immédiatement nourrir ma curiosité en parlant de son métier. Puis, on échangera sur le thème de la parentalité. C'est quoi être parent aujourd'hui ? Pour elle, en tant que maman de deux jeunes enfants et en tant que professionnelle qui côtoie des parents. On parlera de son actualité, de ses projets, de sa relation à Millau. Je vous embarque avec moi, je vais la rejoindre rue droite, au café-resto familial Les Grands Gamins. C'est Mathias qui est aux commandes et au fourneau depuis quelques mois et qui offre un espace dédié aux enfants. Endroit plutôt symbolique pour notre thématique, non ? Allez, on y va. Voilà arrivé, j'avance. Oh, mais je vois Charlotte déjà là. Salut Charlotte.
Salut Isabelle.
Comment vas-tu ?
Ça va.
Mais,
et toi ?
Très bien, très bien. Ben, on va saluer Mathias. Je sais pas. Salut Mathias.
Salut. Bonjour.
Bon, on peut s'installer ?
Oui.
Allez, on s'installe. Merci bien. Charlotte, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une doula ?
Alors, mystère. En fait, une doula. Donc déjà, doula, ça veut dire au service de, en grec ancien. Alors bon, parce que c'est un mot qui existe depuis super longtemps, depuis toujours. Et c'est le même mot au niveau international. Les doulas, en fait, elles ont toujours été dans le paysage de la maternité, bon, de la parentalité, parce que c'était les femmes qui assistaient les femmes et les sages-femmes dans les moments donc, de grossesse, de naissance, d'accouchement, de mise en place de la et puis du suivi de post-couche.
D'accord.
Donc être au chevet de la maman, l'accompagner, l'écouter, la bichonner, lui essuyer le front et puis lui faire des petits plats pour qu'elle se remette un peu de cette période d'accouchement et de grossesse.
Est-ce qu'il y a un côté psychologique aussi dans tes interventions ?
Alors, non, donc pas directement, disons, la doula, elle intervient en complément du suivi médical, qui soit donc suivi médical, suivi sage-femme, suivi gynécologique. et en complément d'un suivi psychologique, si toutefois il y en a un. Donc c'est vraiment de l'écoute et du soutien émotionnel, mais il n'y a pas vocation à aller creuser et chercher le pourquoi du comment.
C'est un soutien, tu es une aide presque au quotidien pour les mamans. Les mamans et les papas, oui, parce que j'ai vu sur ton Insta, qui est super bien fourni, très, très imagé, que tu faisais donc des choses pour les papas, là, des réunions, des cafés apéro. Ou des apéros papa.
Alors oui, c'est vrai que dans le temps, la doula était vraiment auprès de la maman. Et puis bien heureusement, aujourd'hui, les papas, ils rentrent de plus en plus dans le paysage de la parentalité. Ils sont de plus en plus impliqués. Ils passent de plus en plus de temps avec leurs enfants. Donc oui, j'ai eu à cœur de créer des apéros papa. Bah, hier, il y a eu le deuxième apéro papa.
Mathias nous sert à boire. Merci Mathias.
Pile au moment, on dit apéro. Non, c'est une grenadine et une infusion. Donc oui, hier, il y a eu le deuxième apéro papa, qui est en fait un temps dédié entre papas. Donc là, j'ai un groupe de 8 futurs et jeunes papas. D'accord. Pour parler un peu de leur expérience de père. D'accord. Ah oui, c'est génial.
Très bien. Charlotte, tu peux nous parler de tes services, les services que tu proposes, et puis du matériel dont tu disposes ?
Oui, donc concrètement, moi ce que je propose, ce sont donc des accompagnements individuels, que ce soit en prénatal, donc sur toutes les questions qui ont lieu sur le projet de naissance, sur comment on traverse la grossesse, autant le papa que la maman, s'il y a des grands frères et des grandes sœurs, voilà, ça peut être aussi des choses dont on parle, se préparer à son postpartum, à son bien-être en postpartum, anticiper voilà, plein de petites choses, et puis à se préparer à l'allaitement aussi. Et après, j'ai des prestations, des services qui sont en post-natal, donc encore une fois en individuel, donc là, ça va être vraiment... voilà, plus lieu sur le début de l'expérience avec le bébé, comment ça se passe, le rythme, est-ce que chacun prend ses marques, est-ce qu'on est à l'aise, est-ce qu'on a besoin de parler un peu de l'accouchement, de ce qui s'est passé, est-ce que tout est OK, voilà, tout ça. Donc ça, moi j'interviens au domicile des personnes. Donc il y a vraiment cette partie qui va être plus du soutien, disons, émotionnel et pratique. Et de l'informatif en fait, parce que des fois quand on est parent on doit apprendre un millier de choses et on est noyé dans plein de choses, donc voilà, on prend le temps, on respire un peu, on se dit attends, comment toi tu te sens, qu'est-ce que t'as envie, quelles sont tes difficultés, quelles sont les choses qui vont, et puis avec tout ça on compose.
Tu es déjà une oreille pour tous les parents, toutes les mamans et les papas, tu es déjà une oreille, tu les écoutes.
Oui, tout à fait. En fait, on n'a pas l'habitude en fait, d'être écouté, vraiment écouté, sans être interrompu, jugé ou sans que quelqu'un vienne dire « Ah oui, mais moi aussi, ça m'est arrivé. Ah mais attends, tu devrais faire comme ça. » Donc, rien que le rôle d'écouter, en fait, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien.
C'est déjà très important.
Voilà.
Et tu viens avec du matériel ? Des livres, des affiches, des...
Alors oui, tout à fait. Ouais, ouais, j'ai beaucoup de livres. D'ailleurs, c'est quelque chose que je propose dans mes prestations, dans les forfaits. Je prête les livres aux parents, et puis aussi je leur prête du matériel comme le ballon de grossesse. Voilà, plein de choses pour qu'ils aient pas à l'acheter. Donc ça, c'est des choses que je propose. Et ensuite, dans la suite de mes services, pour rester un peu aussi sur l'intervention à domicile, je fais du soutien logistique. Donc là, c'est plus du quotidien, disons, venir cuisiner, faire un peu de ménage, ranger, tout ça, tout ce dont on a besoin quand on est futur ou jeune parent.
Oui, parce que j'ai vu ça sur tes services. Oui, tu proposes effectivement de faire les courses, un peu de ménage. Et c'est vrai que la grossesse et l'arrivée du bébé, c'est un vrai challenge à vivre au quotidien. Et je pensais justement aux mères solo. Est-ce que tu vois beaucoup de mamans seules ?
Alors, directement, des mamans vraiment seules, non, parce que malheureusement, bon, mes services sont payants, bien qu'il y ait une partie qui puisse être prise en charge par du CESU, donc 50% pris en charge par l'État. Malheureusement, ce n'est pas forcément accessible aux mamans solo. Par contre, j'ai accompagné plusieurs mamans, ici, la particularité d'avoir le camp du Larzac, donc des militaires, donc des femmes de légionnaires. Ah, oui, si bien qu'elles ne soient pas solo dans le quotidien, financièrement, tout ça, parce qu'il y a un conjoint, elles sont solo dans leur quotidien.
Pendant un moment,
Pendant un moment, quand ils partent en mission, ou du moins, au moins toute la semaine, quand eux, ils sont sur le camp du Larzac. Donc oui, il y a quand même des femmes qui gèrent seules. Ouais.
Quand tu rencontres un couple, est-ce qu'il t'arrive de voir vraiment des rôles très genrés dans ce couple ? Genre la mère, la maman qui va tout gérer, et le père plutôt absent ?
Autant marqué, moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Bon, je suis assez récente dans mon activité. Hein. J'ai commencé qu'en septembre 2024. Donc, autant marqué, non. Mais oui, on observe quand même des désaccords dans le couple. Voilà, ils ne sont pas toujours d'accord. Et puis, bon, c'est vrai que les papas, ils reprennent vite le travail. Oui. Donc, il y a aussi cette dimension-là que la maman, elle prend très vite les devants toute seule, ouais.
Dans tes services, Charlotte, j'aime bien l'idée de la célébration avec les autres mamans ou avec des amis. Je trouve l'image très belle, porteuse et symbolique en ces temps de repli sur soi, les replis de la société en fait. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de festivités ?
Oui, j'avoue que c'est mes petits chouchous dans mes services aussi parce que c'est vraiment très beau. Pour sortir un peu des fois de ce côté... Il y a un enfant qui arrive, il faut se préparer, voilà, très mental en fait. J'avais vraiment à cœur donc, de proposer des célébrations de la femme, de la mère, voilà. Donc j'ai plusieurs services, il y a le Blessing Mama. Donc le Blessing Mama en fait c'est dans le dernier trimestre de grossesse. Les femmes de la famille, les amis, généralement elles l'offrent en fait à la future maman. Elles se réunissent autour d'elle et puis voilà, il peut y avoir plein d'animations dans la journée. Moi je viens à domicile, des créations, des cercles de femmes, de choses un peu spirituelles ou des choses drôles, voilà. C'est vraiment le truc de rester ensemble et de laisser une trace à la maman après, ou un poème écrit tous ensemble, ou quelque chose de joli qui est créé, ou alors
c'est très symbolique en fait.
C'est très très symbolique et c'est beau quoi, parce que généralement c'est plein d'émotions et de bonnes intentions vers la future maman et ça lui donne un sacré coup de boost pour la naissance et pour l'après.
Et là, bientôt, tu vas organiser quelque chose, j'ai vu, sur le Larzac.
Oui, ça aussi, c'est un peu dans le même esprit, bien que ce soit entre inconnus, en fait. Oui. C'est ce qu'on appelle les petites retraites à la journée. Ça, on appelle ça Natura Mama. Je fais ça avec Kathleen Durand, qui est photographe et qui est mon acolyte de travail. Et donc, on propose effectivement aux mamans, futures et jeunes mamans, de se retrouver chez Naturellement Simple, Saint-Laurent-du-Lévisou. Et voilà, de partager un cercle de femmes, de la création avec de l'argile, un brunch et autres choses toutes jolies.
Et dans la nature.
En fait, dans la nature.
Et dans la nature.
Ah oui. J'ai écouté donc l'émission que tu as faite avec Sophia et tu parlais du postpartum. Alors, c'est pas un mirage ? Ça existe bien ?
Parfois, on croirait que non, mais évidemment, oui, le postpartum, c'est l'après-naissance. Donc, tout le monde y passe, enfin, toutes les femmes, la moitié de l'humanité, disons, presque. Mais on n'en parle pas suffisamment,
non,
ouais.
Non. Et alors, donc, tu peux nous décrire un petit peu cette période ?
Oui.
Qu'est-ce que ça fait ?
Bien sûr, donc le postpartum, enfin, d'un point de vue médical, c'est l'après-naissance, donc après l'accouchement. Donc il y a plein de choses, évidemment, que la maman, son corps, il est en convalescence parce qu'elle a porté et donné naissance. Donc il peut y avoir des blessures physiques plus ou moins importantes. Mais il y a aussi toute une dimension qu'on prend en compte aujourd'hui, qu'on ne prenait pas en compte avant, qui est la dimension de la tête, hein, tout ce qui se passe. Donc toute la charge mentale qui peut être associée, tout ce stress. Qui peut être associé à tous ces nouveaux apprentissages au devenir parent. Il y a aussi dans le cœur, disons, comment on vit tout ça, le côté vraiment émotionnel, disons. Ouais, voilà. Et une autre dimension qu'on de plus en plus on prend en compte, que moi je dis voilà, dans ton être, qui est un peu la transformation, c'est-à-dire qu'on change vraiment de statut social. On passe d'une femme à une maman. Donc il y a plein de changements qui opèrent aussi dans le statut social. Et des fois, les mamans ne se reconnaissent pas toujours, quoi.
Oui, puis peut-être une part de l'enfance qui ressurgit, une part aussi de ce qu'on était quand on était petit, voire bébé. Enfin, je ne sais pas, dans l'inconscient, il y a quelque chose peut-être qui ressurgit pour ces nouvelles mamans.
Et oui, les mamans et les papas, et c'est aussi ça des fois, c'est que quand on devient parent, on refait face à notre histoire. Il y en a avec qui ça se fait avec plus de facilité, voilà. Et d'autres pour qui c'est plus difficile.
Alors donc, que la grossesse et la doula ? Je te pose une question, parce qu'effectivement, on pourrait penser qu'une doula serait nécessaire, moi je ne sais pas, pour d'autres périodes importantes pour la femme, comme la puberté ou la ménopause. C'est deux moments charnières là, de la vie. Qu'est-ce que t'en penses ?
Alors oui, tout à fait. En fait, on dit que chaque doula a sa couleur, c'est-à-dire que ça reste de l'auto-entrepreneuriat, donc chacune a ses intérêts propres. Mais il y a beaucoup de doulas qui accompagnent ces périodes-là.
D'accord.
Moi, j'y suis très sensible et ça m'intéresse beaucoup. Mais bon, voilà, pour le moment, je ne peux pas être dans tout. Mais oui, la puberté et la ménopause, c'est des grands moments dans les cycles de vie de la femme.
C'est ça.
Et ouais, c'est vraiment important.
On a besoin d'aide pour certains, de soutien et d'écoute.
Donc les mamans, les papas, tu parlais évidemment des parents, ça me paraît logique. Et les grands-parents, alors est-ce que là il n'y aurait pas quelque chose à faire? Parce que c'est vrai que la génération actuelle de parents, on va dire les trentenaires, sont, je trouve, beaucoup liés à leurs parents. Plus que, par exemple, comme moi, quand j'avais 30 ans, je n'étais pas tant liée que ça à mes parents. Donc le rôle du grand-parent a peut-être changé en quelques décennies. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors oui, je pense que la famille, elle évolue au fur et à mesure des générations et puis bon, de l'histoire, ça c'est indéniable. Les grands-parents, ils ont un rôle super important à jouer, moi je dirais auprès de leurs enfants directement, de soutien, s'ils le souhaitent, et auprès de leurs petits-enfants. C'est vrai que c'est un grand-parent, c'est un repère, vraiment. Qu'est-ce que je propose? Alors moi je l'ai proposé d'ailleurs ce projet à différents endroits à Millau, mais il n'a pas été retenu. Mais ah. Ouais, c'est dommage, mais bon, parce que je cherche des financements, donc si quelqu'un m'écoute non mais en fait, mais ça va se faire. J'aimerais créer des groupes, comme je fais des groupes de mamans, des groupes de papas et donc des groupes de grands-parents. Donc j'avais appelé ça les papis papotes, les mamies je sais plus quoi, enfin bon, c'était un truc comme ça. Et voilà, se retrouver et essayer d'échanger autour de leur vécu, de leurs appréhensions, de leurs projections, de leur envie d'être impliqués.
Du rôle à tenir avec nos enfants et nos petits-enfants. Être là, mais pas trop près, être là en cas de besoin, mais ne pas être non plus trop présent. C'est vrai que c'est compliqué.
Oui,
ça peut être compliqué.
Hein. On voit que de toute façon, des fois, il y a des conflits dans les familles. Alors, la fille qui dit oh, mais laisse-moi tranquille, laisse-moi un peu faire. Enfin, voilà, les conseils un peu sollicités. Mais tu sais, avant, on faisait comme ça.
Voilà.
Et bon, moi, je ne suis pas là pour dire il faut faire ci ou il faut faire ça. Mais juste, c'est vrai que j'aime bien informer. Et les grands-parents sont demandeurs de ça. C'est comment élever un enfant aujourd'hui, en fait? C'est quoi les codes de cette nouvelle génération,
oui,
en fait?
Tu voulais nous parler d'un autre service qui te tient à cœur.
Oui, parce qu'on a parlé du Blessing Mama donc dans les célébrations, mais il y en a un qui est pour les parents, en fait, et je le trouve trop magnifique. Je l'appelle la capsule de vie. En fait, je viens au domicile des parents et je viens encapsuler leur histoire d'amour, de naissance, de jeune famille. Donc on s'est mis d'accord au préalable sur quelques questions et quelques sujets qu'ils veulent aborder. Et donc je viens avec un petit micro d'enregistrement, comme nous là en ce moment, tu vois. Et puis on fait un échange comme ça. Donc moi après je fais le montage audio et je prends quelques photos et je leur donne tout ça sur une clé USB. Et puis c'est quelque chose qu'ils peuvent léguer en fait à leurs enfants plus tard. Et j'aime bien cette idée, si tu veux, de la transmission. Parce que quand on est grand, on a tous envie de savoir nos débuts dans la vie, en fait. Et je trouve que c'est vraiment des cadeaux précieux à se faire en tant que famille, ouais. Ouais, ouais.
Tu as des bonnes idées, Charlotte. Et moi, j'adore les termes que tu prends, Natura Mama, capsule de vie. Tu étais dans la publicité avant?
Non,
pas du tout. Je suis éducatrice spécialisée, rien à voir. Mais j'aime tellement ces... Ouais, j'ai tellement trouvé ma voie que... Ouais.
Bon.
Tu t'éclates dans les termes déjà. Tu peux nous parler de tes projets, le projet futur ou alors projet très très lointain dans le temps?
Oui, et bien là, depuis septembre, j'en ai lancé pas mal et ça a mis un peu de temps plus que ce que je pensais. Donc j'ai des projets, alors j'aime bien développer l'aspect collectif. Je trouve que le social, quand on devient parent, c'est un peu compliqué. J'aime bien proposer des choses, voilà, de conviviales. Donc il y a les after crèches qui ont lieu tous les troisièmes vendredis du mois. Donc ça, c'est la tape sur le toit et c'est un créneau parents-enfants, en fait, où est-ce qu'on vient, voilà, c'est 17h-21h, où on vient grignoter quelque chose, boire un petit sirop, il y a des jeux pour les enfants, des coloriages. Et alors, dans ces after crèches, il se passe des choses magnifiques. Alors, c'est pour jeunes enfants et un peu plus grands, mais il y a des espaces pour tout le monde. Il y a mes apéros papa, il y en aura 4 en tout, donc il en reste encore 2. Il y a Nature à Maman, cette petite retraite dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, déjà tout ça, c'est pas mal, en plus des accompagnements individuels. Et puis, sur l'été, j'aimerais bien proposer, parce qu'on dit souvent que pour les parents, c'est difficile les vacances, parce que un peu cet isolement, des fois, les enfants, ils tournent en rond, on en a marre, tout le monde s'agace. Et j'aimerais créer aussi beaucoup de petits ateliers parents-enfants comme ça sur l'été pour se retrouver, faire une rivière ensemble, faire un petit atelier patouille et création, et puis parler, se retrouver en fait, se rassembler.
À suivre, alors tu donneras les infos sur tes réseaux sociaux, sur ton réseau social.
Oui.
je pense qu'on a fait le tour au niveau de tes services, Charlotte.
C'est pas mal déjà.
Alors en fait, tu proposes tous ces services, mais qu'as-tu fait comme formation ? On va parler un peu plus de toi là, personnellement.
Ok, donc moi initialement, je suis éducatrice spécialisée, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. J'étais diplômée à mes 21 ans. Après j'ai fait plein de choses, j'ai beaucoup voyagé, qu'importe, j'ai beaucoup d'expérience aussi associative et personnelle. Mais concernant ma formation, j'ai décidé, après être devenue mère, donc moi je suis devenue maman en mars 2020, au moment où le monde se fermait d'ailleurs, c'est assez anecdotique, mais le Covid, c'était un moment particulier pour devenir mère. Et j'ai traversé beaucoup de difficultés dues à cet isolement mondial, social, mais aussi d'autres. Et donc, j'ai rencontré une doula, en fait.
D'accord.
Et
elle t'a donné envie.
Elle a changé ma vie. Je pense qu'elle elle m'a sauvée à un moment où j'avais besoin de quelqu'un. Et je me suis intéressée de plus en plus donc à ce métier, au point de me former donc en 2023 avec un centre de formation en présentiel à Montpellier.
Okay.
Et c'était vraiment beau.
Et tu penses que pour être doula, il faut nécessairement être une maman ?
Alors non, je pense pas, parce que la doula, c'est avant tout une posture d'écoute, de non-jugement, de bienveillance. Et puis dans notre formation, on est formé à tout ce qui a à voir avec la périnatalité, donc la grossesse, l'accouchement, l'allaitement. Donc souvent, c'est les mamans qui ont un déclic quand elles deviennent mères et elles ont envie d'être auprès d'autres mères. Mais dans ma formation, il y avait 3 femmes qui étaient non-mamans et qui sont des doulas formidables.
Très bien. Tu as vécu longtemps en Argentine, Charlotte. Est-ce que tu as pu t'imprégner de la façon dont on vit sa grossesse là-bas ? Et est-ce que ça t'a donné une expérience pour justement proposer tes services ici ?
Alors oui, moi j'ai vécu 8 ans en Argentine, de mes 22 ans jusqu'à mes 30 ans, et j'ai eu mon fils là-bas, donc en mars 2020. La maternité n'est pas vécue du tout de la même manière. Déjà là-bas c'est beaucoup plus naturel, on se pose moins de questions, tout le monde est mère, c'est un peu un aboutissement, c'est comme ça, on fait famille. Et puis il y a toute une proximité, il y a tout un rapport, c'est beaucoup plus communautaire. Donc les femmes sont plus entre elles. Moi, elles me bichonnaient pendant ma grossesse. Enfin, il y avait tout quelque chose comme ça. C'était assez beau quand même. Et puis l'après, c'est vrai que la naissance, par exemple, moi j'étais en cambrousse, j'étais en Patagonie, donc il n'y a pas de péridurale, ça existe, enfin il n'y avait pas. Donc il y a tout un rapport un peu plus naturel, beaucoup moins médical. Bon, pas dans les villes en Argentine, parce que là, c'est le contre-pied, c'est césarienne à fond. Donc, je nuance, mais moi, là où j'étais, c'était un petit village, donc il n'y avait pas du tout ça. Et puis là, après, l'allaitement, on allaite forcément. Là-bas, on dort avec ses enfants. Les maisons, elles sont petites. Il n'y a pas une chambre par enfant, ça n'existe pas. Donc, le bébé, il est dans le lit avec les parents. Ouais. Enfin, voilà, c'est vrai que moi, ça a beaucoup imprégné ma manière d'être mère. Et voilà, mais après, en tant que doula, moi, je respecte ce que chacun veut faire. Je veux dire, là-dessus, j'influence pas, quoi.
Alors, j'aurais la tête ne peut plus y croire. Alors je respire cœur, mais qui réplota mon cœur, non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras.
Y a veces pasa.
Alors je respire, respire, que après la pluie, un nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento.
Côté féminisme, tu es impliquée aussi dans le planning familial de Mio. Est-ce que tu as un lien fort? Tu as un lien fort avec les femmes, ça c'est sûr, c'est indéniable. D'où cela te vient-il? C'est plutôt de ton enfance? Peut-être as-tu été entourée de femmes ou à l'inverse, non? Ça te vient d'où, cette sororité?
Peut-être parce que j'étais entourée de trop d'hommes. Non, j'ai deux frères, en fait. Je sais pas. C'est vrai que j'ai toujours aimé être entre copines, quoi. J'avais une grosse bande de copines plus jeunes. Et puis après, après avoir été diplômée en éducatrice spécialisée, j'ai travaillé un an, en fait, au Maroc, dans des centres sociaux qui accueillaient justement des femmes et des jeunes filles qui travaillaient pas, qui allaient pas à l'école. Et donc, on a eu des projets de monter des coopératives de femmes, par exemple. Et c'est vrai que je pense que ma première approche du féminisme, elle est à ce moment-là. Je trouvais que c'était assez extraordinaire ce qui se passait là-bas. Et en Argentine, y a une énorme vague féministe. Enfin, l'avortement est arrivé seulement le 31 décembre 2020. Donc, même moi, quand je suis tombée enceinte, pour moi, c'était OK, mais ça aurait pu ne pas l'être. Et en l'occurrence, il n'y avait pas la possibilité d'avorter. Donc, il y avait quand même un grand mouvement féministe là-bas. Voilà, c'est ou très religieux, très catho, ou le contre-pied, les nouvelles générations qui sont quand même très féministes.
Et maintenant, là, tu le sais, tu as des infos en Argentine en ce moment, c'est comment? Est-ce que les femmes peuvent encore crier leur demande, leur doléance?
Oui, franchement, on appelle ça la marée verte. Elles ont tous le petit foulard vert autour du cou. Et c'est des millions de personnes qui sont, de femmes qui sont dans les rues. C'est assez impressionnant, ouais. Voilà.
Revenons à Millau, justement. Tu es là, Millau. Est-ce que c'est une ville que tu connaissais? Est-ce que tu es millavoise? Est-ce que tu es venue comme ça par hasard? Raconte-nous ton attachement à Millau.
Oui, alors non, je suis pas native mi-avoise parce que je suis née en banlieue parisienne, oh là là. Mais enfin, mes parents sont arrivés ici, moi j'avais 2 ans, donc concrètement j'ai vraiment grandi ici. J'ai passé toute mon enfance ici jusqu'à mes 18 ans où je suis partie et je suis revenue à mes 30 ans. Mais oui, j'ai un attachement très important à Millau.
Donc là, vous entendez un petit fond sonore, je pense. On est chez Mathias. Alors, tu connais Mathias, Charlotte ? Tu peux nous expliquer un petit peu où on est et qui est ce Mathias ?
Oui, moi, j'ai choisi cet endroit-là pour faire l'interview. Donc, on est au café-restaurant familial Les Grands Gamins qui vient de s'ouvrir il n'y a pas si longtemps dans la rue droite à Millau. C'est un lieu formidable pour moi parce qu'il y a tout un espace jeu pour les enfants. Donc, j'aime bien venir ici avec mes enfants. Et voilà, c'est vraiment agréable. Donc, on entend justement une famille qui est venue goûter.
C'est vivant, comme ça. Alors, on disait doula pour les femmes. Et moi, j'ai une petite question là qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il existe des doulas hommes ?
Oui, ils sont beaucoup plus rares. Mais moi, dans ma promo de doula, il y avait un doulot, on l'appelait. Bon, on disait doulot, mais en fait, il se dit doula. Mais enfin, on peut dire comme on veut, en fait. Mais effectivement, c'est bien aussi qu'il y ait des hommes qui s'emparent de ce champ-là. En fait, et lui, il a un public beaucoup de pères, en fait. Ouais. Et c'est bien, ouais.
On a oublié tout à l'heure de parler de tes cartes cadeaux, là. Tu nous donnes une bonne idée, peut-être, pour gâter nos filles.
Eh bien, oui, en fait, quand un bébé arrive, des fois, il y a des listes de naissance à rallonge avec plein de choses matérielles dont on ne se servira pas beaucoup. La fameuse anecdote des doudous qu'on a en triple exemplaire. Alors qu'en fait, parfois, voilà, il y a des cadeaux très utiles, comme par exemple le soutien logistique où il y a quelqu'un qui vient un peu à la maison en soutien faire du ménage pour que les parents aient que à s'occuper de leur bébé. Ou les célébrations qui sont vraiment des cadeaux marquants et très forts pour la famille, voilà, ou les accompagnements. Enfin, il peut y avoir, donc je propose des cartes cadeaux si quelqu'un veut offrir un service spécifique, donc d'accord, de tous ceux que j'ai nommés, ou alors comme un bon d'achat, disons une certaine valeur. Parce que je propose plein de petits ateliers par enfant, pas très cher, par exemple, avec des prix à 10 euros, des choses comme ça. Donc voilà, on peut très bien mettre un montant de 30-40 euros. Et la famille, après, l'utilise où elle veut, en fait. Ouais. Et là, je suis en création. On a parlé des projets, mais j'en ai tellement que des fois, j'en oublie. Je suis en train de créer une petite box, en fait, pour la fête des mères. Donc, restez attentifs. Et avec des jolies choses dedans, un joli message. Et puis, voilà.
On n'en dit pas plus. Un suspense. Avant de parler de la parentalité, donc de clore plutôt l'aspect de cette interview, l'aspect métier, est-ce que tu peux nous dire comment on te contacte ?
Eh bien, j'ai un compte Instagram où je suis très présente. Donc, Charlotte Doula. Il y a plusieurs Charlotte Doula, mais évidemment, il faut chercher celle de Millau.
Une petite fleur.
Oui, j'ai une petite fleur. Oui, j'adore les fleurs. Voilà, c'est ça, tout ce dont on a besoin. Et après, j'ai un site internet, donc Charlotte Doula Millau, que j'ai créé, où est-ce que, tout est très bien expliqué de mes services, et puis avec mon contact, donc mon téléphone, mail, WhatsApp, etc., on trouve tout ce qu'il faut, ouais.
On va aborder donc notre thématique avec toi, Charlotte, la thématique de la parentalité. Alors, tu peux répondre en tant que maman, évidemment, et avec les retours de tes amis et des parents. Clients, tu les appelles comment, en fait ?
Des clientes, oui. Parce que beaucoup de clientes, mais des clientes et des clients. Ouais.
Alors, grande question, là où tu as 3 heures pour répondre. Non, je rigole. Qu'est-ce que c'est qu'être parent aujourd'hui ? Est-ce que tu trouves que, avec le recul que tu as pu avoir ou avec les discussions que tu as pu avoir avec les anciennes générations, est-ce que c'est différent d'être parent aujourd'hui ?
Être parent, disons, c'est faire famille. Et c'est sûr que par rapport à avant, la conception de la famille, elle a grandement évolué. Et vraiment, on n'est plus du tout dans les mêmes choses. Avant, il y avait la famille, le papa, la maman, un enfant, plusieurs enfants, 2 enfants. Voilà, cette famille un peu des livres et des catalogues. Aujourd'hui, faire famille et être parent, enfin, moi, j'ai été formée sur cette partie-là aussi de la parentalité. Il y a des familles de plus en plus monoparentales, dont les femmes, généralement, sont plus à charge des enfants, des familles homoparentales. Il faut savoir que la PMA, par exemple, elle a été ouverte aux couples de femmes. La PMA, elle est aussi ouverte aux mamans solo, c'est-à-dire qu'une maman peut décider de faire famille sans avoir un mari, un conjoint. Voilà, donc il y a tout cet aspect-là. Et puis, il y a aussi des familles qui vivent de plus en plus à l'étranger, loin de leur pays d'attache, loin de leur famille, grands-parents, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc, ouais, être parent aujourd'hui, voilà, c'est multiple, quoi. Il y a vraiment plein de représentations.
Finalement, alors au vu de ton métier, au vu de la finalité de ton métier, être mère ou être père, j'ai envie de dire, mais a fortiori quand même être mère, ce n'est pas évident et ce n'est pas inné.
Eh bien, ça c'est une construction sociale, effectivement. Anciennement, la reproduction, voilà, c'était de fait, c'est ce qui était attendu d'un couple et d'une femme. Hein, je veux dire, comment on les appelait, les vieilles filles, non les... qui se mariaient pas, qui faisaient pas d'enfants. Donc bon, aujourd'hui, on est dans des conceptions et des sociétés, en France du moins, où est-ce que on peut faire le choix de ne pas vouloir d'enfants, par exemple, effectivement, c'est... Voilà, c'est...
Et tu as, dans tes connaissances, dans les trentenaires que tu fréquentes, tu as des couples qui ne veulent pas avoir d'enfants ? Est-ce que tu le comprends ?
Alors, oui, moi, autour de moi, alors, qui veulent pas d'enfants ? Bon, moi, j'ai 33 ans, mais en tout cas, j'ai eu des enfants très tôt par rapport à mes amis. Moi, j'ai été mère à 28 ans. Mes amis ne sont pas, mes amis proches vraiment d'enfance ne sont pas encore maman, par exemple. Donc voilà. Mais il y a d'autres personnes autour de moi qui affirment effectivement ne pas vouloir d'enfant. Est-ce que je le comprends ? Oui, évidemment, parce que moi, la priorité, c'est le choix. En fait, moi, je dis toujours, c'est mon corps, mon choix. Et si en plus, c'est OK dans le couple, ça regarde personne, en fait. Donc voilà, moi, je le comprends.
Peut-être que ma question qui arrive là va corroborer avec ma question précédente. En fait, je voulais te demander, est-ce que dans le contexte géopolitique actuel entre Trump, Poutine, le futur de l'Europe, est-ce que ça influence votre éducation à vous, parents et aux clients que tu vois ? Est-ce que vous faites finalement une bulle protectrice autour de votre famille ? Est-ce que ça vous angoisse tout ça ? Est-ce que ça vous fait flipper ?
Eh bien, tu vois, t'en parles, mais dans les personnes autour de moi qui veulent pas d'enfants et qui l'affirment, l'éco-anxiété et l'anxiété politique, c'est quand même quelque chose qui vraiment est mis en avant. Voilà, ce truc, je me sentirais trop égoïste de mettre au monde un enfant, voilà, dans ce contexte.
Oui, en plus, j'ai parlé plutôt de la géopolitique, mais la crise environnementale fait partie aussi, j'imagine, du stress, hein.
Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est sûr. Après, moi, à titre personnel, être mère, pour moi, c'était vraiment important. Et moi, je me suis révélée aussi dans ma maternité et en tant que femme. Qu'est-ce que je fais, moi, pour me protéger ? Oui, effectivement, moi, ça m'angoisse. Après, il y a eu, de tout temps, il y a eu des crises et autres. Moi, personnellement, je milite. Je milite, voilà. Je suis écolo, je milite en tant que féministe pour essayer de au niveau local d'agir et puis moi je transmets à mes enfants, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voilà, j'ai un grand intérêt pour la parentalité et leur transmettre de belles valeurs, beaucoup d'amour, et effectivement j'avoue que j'écoute plus les infos parce que pour moi c'est anxiogène, ouais, parce que je peux pas agir là-dessus.
Alors on revient au petit bébé et on va parler allaitement. On en est où aujourd'hui de l'allaitement ? Est-ce qu'on le prône justement dans les discours actuels, on laisse le choix, j'imagine, ou on martèle justement sa nécessité ? On fait quoi avec l'allaitement ?
C'est un peu paradoxal parce que les bénéfices de l'allaitement, ils sont plus à prouver, en fait. Voilà, l'OMS parle, voilà, il faudrait au moins pouvoir allaiter 6 mois nos enfants, voire plus. Maintenant, effectivement... Il y a un paradoxe parce que les femmes ne sont pas très bien accompagnées sur l'allaitement. Bon, après, il y a des femmes qui ne veulent pas allaiter. Alors là, encore une fois, je le répète, c'est mon corps, mon choix, il n'y a pas de... Voilà. Et puis bon, quand on retourne au travail au bout de 2 mois et 3 semaines, comment on peut continuer à allaiter et aller jusqu'à ces 6 mois, voire plus ? C'est vraiment super compliqué. Il faudrait qu'il y ait plus. Moi, je fais tout un accompagnement à l'allaitement et j'aurais à cœur aussi de créer des groupes de soutien ici à l'allaitement. Parce que ça, on dit que c'est naturel et inné, mais ça, c'est quand même très difficile. C'est très difficile.
Moi, je vais noter quand même que depuis quelques décennies, il y a une importance accordée au lien puissant entre la mère et son enfant. Si je parle du portage, du tissu dans lequel on met le bébé, je ne sais pas comment, l'écharpe, voilà. Le cododo aussi, répondre aux pleurs du bébé, ça c'est nouveau. Enfin bon, je vais parler un petit peu en tant que dinosaure, mais moi quand j'ai eu mon fils il y a 3 décennies, n'est-ce pas, à la maternité, on me l'a enlevé par exemple. Et moi, toute jeune maman, je n'osais rien dire. En fait, on m'a dit, madame, il va falloir que vous vous reposiez. Donc, on m'enlève mon fils et on l'amène à la nurserie, pouponnière, je ne sais pas. Je me suis retrouvée complètement démunie. Ça, je pense qu'on ne le fait plus. Enfin, j'espère. Je n'ai pas su répondre à ça parce que j'étais assez jeune. Mais encore maintenant, ça me heurte. Et je vois que l'importance qui est là donnée au lien entre l'enfant et la maman, je trouve que c'est bon, non?
Alors oui, c'est que du bon et on y revient. Alors dans notre histoire de l'humanité, c'est assez récent finalement ce maternage et cette éducation à distance en fait, parce que les enfants ils ont toujours été allaités, etc. Disons que par exemple, on parlait de l'allaitement tout à l'heure, tu vois Nestlé et le lien industriel, il a été créé dans un contexte de post-guerre mondiale en fait. Donc c'était vraiment pour répondre à un besoin. Voilà, il y avait plein de bébés qui n'avaient plus leur mère, donc c'était vraiment une solution d'urgence, mais qui n'était pas voué à perdurer. Sauf que bon, il y a une logique capitaliste derrière tout ça, sans trop rentrer dans le détail politique. Mais donc, on a introduit de plus en plus, voilà, le lit à distance, la chambre à distance, tout ça, c'est des choses qui s'achètent, en fait, alors que le corps des femmes et le lien pur amour et la proximité, ça s'achète pas. Effectivement, on y revient, parce qu'il y a toute une logique de voir que, effectivement, les logiques capitalistes, elles se sont incrustées dans plein de choses de notre vie, dont la maternité, la parentalité, effectivement. Mais on y revient beaucoup sur nos générations, effectivement. Et ça, c'est très beau. Moi, voilà, j'ai dans les choses que je prête aux parents, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, je prête des écharpes, des porte-bébés. Je leur montre un peu comment on fait, et c'est super chouette. Ouais, c'est vraiment chouette.
Le symbole, c'est quand même ce fameux cododo où le bébé est juste à côté, à la hauteur du lit des parents. Donc ça n'existait pas avant. C'est chouette. C'est un beau symbole. Alors côté éducation, alors là, pareil, tu as 3 heures. Penses-tu qu'on éduque une petite fille comme un petit garçon?
Non, absolument pas. Absolument pas. Après, bon, là-dessus, il y a beaucoup de divergences. On a un héritage, qu'on le veuille ou non, d'éducation au masculin et au féminin. Il y a des parents pour qui c'est très affirmé, mais même des parents qui ont la volonté de sortir un peu de jeux super genrés. Voilà, les garçons, c'est les choses stratégiques, rapides, violentes. Les filles, elles jouent à la poupée, aux petites choses, voilà, au ménage, etc. Même en voulant sortir de ça, on influence d'une certaine manière.
Faut faire attention, en
fait. Bah, tout dépend de ce qu'on veut faire. Moi, j'y fais très attention parce que c'est très important dans mon éducation. Pour le 8 mars, là, avec le planning familial, j'ai créé une petite boîte à outils, justement, sur la parentalité féministe et comment on peut penser, mais même, tu vois, par exemple, le partage des aires de jeu, tu vois, est-ce que c'est bien réparti les espaces? Est-ce qu'on laisse de la place pour les plus petits, les plus bébés, ou est-ce que c'est les plus grands, les plus forts qui prennent toute la place? Est-ce que c'est les garçons qui sont au centre ou, et les filles qui sont plus à côté en train de jouer? Voilà, tout ça, c'est des thématiques que moi, j'adore aborder.
Charlotte, on a fait le tour de pas mal de sujets. C'était un moment très agréable. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation.
Eh ben, merci à toi, merci à Radio Larzac de donner de la lumière à ces sujets. Moi, ils me semblent passionnants, mais je pense que ça intéresse beaucoup de jeunes parents aussi. Alors, parlons-en.
À bientôt tous, et puis ouvrez grand les oreilles. Bye bye.
Jogo d'amore, linha na linha, não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Tonta di tanto chora, tu chora malaco, yana que vomi baya. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La la, la, la.